du jamais vu. Depuis 40 ans, le marché de l'immobilier subit lui aussi les effets des émeutes. La vente de biens est quasiment à l'arrêt. En revanche, les commerces du centre-ville retrouvent un second souffle. Ils notent un retour progressif à la normale. Les visiteurs n'ont pas attendu. Ils étaient nombreux ce matin à profiter de la réouverture du parc provincial zoologique et forestier pour les vacances scolaires. À l'étranger, Kamala Harris choisit son colistier pour le ticket présidentiel aux USA. Le choix du gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, permet de rassurer l'aile gauche du parti. C'est du sport, pas de médaille française au JO lors de la dernière journée, mais les équipes de France, on le verra dans la page au sport, ont remporté de belles victoires en sport collectif. Et puis, nouvel objectif pour le judoka Teddy Riner, les JO de Los Angeles dans 4 ans. C'est ce que nous a dit son manager, le calédonien Laurent Caléja, qui l'accompagne depuis près de 15 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le marché calédonien de l'immobilier subit de plein fouet les effets de la crise insurrectionnelle déclenchée le 13 mai dernier par la CCAT. On peut même parler de marché sinistré, selon Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération territoriale des agences immobilières, qui était notre invité ce matin à 7h30. Le secteur de la vente de biens est le premier à souffrir de la situation.
Il est certain qu'il y a un avant et un après 13 mai. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'avant le 13 mai 2024, le marché de l'immobilier, et particulièrement le marché de la vente, était déjà dans un état qui était moins bon qu'en 2022. En 2022, on a connu un fort rebond. Et dès le deuxième trimestre 2023, on constatait une baisse assez significative du volume de transactions immobilières. Donc le 13 mai 2024, malheureusement, a confirmé l'arrêt total quasiment de la transaction immobilière, des ventes. En mai et en juin 2024, le nombre de compromis qui ont été signés dans les études notariales est extrêmement faible, hein, on les compte quasiment sur les doigts de la main. Donc vraiment quelque chose de très bas. Alors c'était compréhensible, hein, puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer pour visiter, pour signer. Par contre, aujourd'hui, c'est plus l'inquiétude sur l'avenir économique qui prédomine. Et aujourd'hui, avec des gens qui sont au chômage ou au chômage partiel, ou qui quittent le territoire, il va de soi que le nombre de transactions est au point bas et qu'aujourd'hui, on est au creux de la vague par rapport à ça.
Le marché est aussi à l'arrêt dans la zone VKP après l'annonce de la probable fermeture de l'usine du Nord. Et sur l'ensemble du territoire, en revanche, c'est l'offre de location qui a explosé, nous a expliqué Jean-Damien Ponroy.
On assiste à une offre très importante de logements mis en location. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne peuvent vendre mettent leur logement en location. Donc on a une offre très importante dans ce domaine-là. À côté de ça, il y a des gens qui souhaitent déménager de certains quartiers, notamment les quartiers touchés. Donc on peut et on constate aujourd'hui un regain d'intérêt pour le centre-ville. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Et aujourd'hui, effectivement, tous les quartiers non touchés sont ceux qui sont le plus réservés, qui font l'objet d'une demande. Une demande, malgré tout, relativement moins importante que par le passé. Pourquoi ? Parce que là aussi, face à de l'incertitude, les gens ne sont pas en mesure de décaisser un loyer d'avance, le dépôt de garantie, etc., etc.
Et dans ce contexte, de nombreuses agences immobilières sont en difficulté. Certaines d'entre elles ont déjà mis la clé sous la porte. Et il est bien difficile de faire des prévisions pour les semaines et les mois qui viennent.
Il faut remonter à 84-88 pour retrouver une telle situation. Depuis 40 ans, on n'a pas connu ça. Et la difficulté que l'on a, c'est que pour pouvoir se projeter dans les prochains mois, on n'anticipe pas que les choses s'améliorent, puisque malheureusement, on sait, la crise sociale est en partie devant nous. On l'a vu avec donc, la fermeture annoncée de KNS. Et tant qu'il n'y a pas d'accord politique, je ne vois pas très bien comment l'économie pourrait redémarrer. Et si les gens n'ont pas confiance dans l'économie et dans le politique, ils ne peuvent pas se projeter sur 15, 20, 25 ans pour l'achat d'une vie.
Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération territoriale des agences immobilières, qui était notre invité ce matin. Un entretien que vous pouvez retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Le regain d'intérêt pour le centre-ville s'applique aussi au commerce du centre de Nouméa. Ils ont été épargnés par les exactions de ces derniers mois et il n'en fallait pas plus pour que les clients qui avaient déserté ces boutiques reviennent tout doucement, Léana Colombo.
Oui, cela faisait longtemps que les rues du centre-ville de Nouméa n'avaient pas été aussi animées. Période de vacances scolaires oblige, des familles entière de toute l'agglomération se déplace dans les commerces à la recherche de nouveaux vêtements ou tout simplement pour prendre l'air. Du côté des commerçants, tous sont quasiment unanimes. Les clients reviennent et achètent. Un semblant de retour à la normale qui fait du bien au moral de tout le monde.
C'est très pratique de tout faire à pied. Le centre-ville, c'est un endroit qui est très bien, très calme. On a un grand jardin, le bord de la mer, des restaurants, etc. On a beaucoup de choses au centre-ville.
Je suis venu balader un peu, changer d'air. Ouais, il y a du choix quand même. Bon, il manque un peu des choses, mais sinon ça va.
J'aimerais un peu plus de choix.
Un peu plus de magasins de marque. Nike, ou c'est que Nike, Adidas et tout.
C'est pour faire sortir les enfants un peu. Et c'est les vacances.
Le magasin Hotspot existe depuis plus de 20 ans en centre-ville, mais a changé d'emplacement dans le centre il y a un mois, soit en plein milieu des exactions. Pourtant, la boutique ne désemplit pas depuis sa réouverture, explique Priscilla, la responsable du magasin.
C'est sûr que, compte tenu de la conjoncture actuelle, c'était un peu chaud, mais ça marche plutôt bien, donc on croise les doigts. On était déjà au centre-ville, vu que tout a brûlé autour de nous. Ça redynamise, on va dire, un peu le centre-ville, puisque les jeunes ne peuvent pas aussi prendre le bus. Donc, on vient au centre-ville nous voir. Mais il y en a qui ont l'impression de voyager, d'être en Nouvelle-Zélande, en Australie et tout. Et c'est super. On a le petit barbeur, on a un étage, l'espace chaussures. Il y a plein de belles choses, il faut venir nous voir.
Malgré ce regain de clients, les commerçants voient cette situation comme temporaire. Ils restent toujours inquiets quant à un retour des exactions qui pourrait cette fois-ci toucher le centre-ville.
On note donc un retour au calme relatif, mais pas partout. Les habitants du quartier de Tuban affirment de leur côté que leur sécurité n'est toujours pas assurée et révèlent une recrudescence de nouvelles exactions depuis le week-end dernier, Isabelle Pelletier.
En ce milieu de matinée, le rond-point du collège de Tuban et de la poste de Enghea est encore jonché de bris de verre et de détritus. Un petit groupe de jeunes encagoulés traverse la rue. L'un d'entre eux porte un long bâton dans l'une de ses mains. Pour les gens du quartier, une quinzaine de personnes seulement, plutôt des adultes, est à l'initiative d'actions hostiles, mais les susceptibles d'entraîner avec elles les jeunes en vacances scolaires, ce qui pourrait expliquer la petite flambée d'incivilité de ces derniers jours, insultes racistes sur les barrages de voisins vigilants du quartier et des quartiers voisins, caillassage et agression d'automobilistes lundi sur le bord de la route aux abords du collège. Et cette nuit, incendie d'un véhicule. On écoute le témoignage de Pierre, un habitant du quartier.
Il n'y a pas vraiment un retour à la sécurité. Et pour preuve, c'est qu'en journée, on a encore des choses qui se passent parfois sur certains barrages, avec des tentatives d'agression sur des barrages en journée. Et puis de nuit, on a aussi des exactions qui sont commises, moins fortes qu'avant, c'est vrai. Mais là, pendant les vacances scolaires, on a vu notamment en fait la route qui est dégradée le matin systématiquement, remplie de bouts de verre sur le rond-point de Tuban, par exemple. Dans la nuit d'hier soir, il y a encore un véhicule qui a brûlé juste derrière le lotissement devant le collège Tuban. Aujourd'hui, passant en voiture, c'est devenu toujours une inquiétude. Donc bien sûr, on ne se fait pas caillasser à chaque fois, mais il peut y avoir des agitateurs, des personnes qui sont dans un état des fois un peu compliqué et qui passent avec les drapeaux et on a le droit à des insultes. Et la vie au quotidien est toujours compliquée. Bien sûr, on n'a plus les booms du soir et les explosions et les attaques des forces de l'ordre. En revanche, ça n'enlève rien au fait qu'on est toujours dans l'insécurité dans le quartier de Tuban.
Pierre fait partie des nombreux habitants de Tuban à avoir des enfants scolarisés au collège du quartier. Une reprise était envisagée pour le 20 août, mais ce retour des exactions fait craindre aux parents un abandon de ces décisions du vice-rectorat.
Ce qui reste anxiogène aussi, c'est qu'on a envie, et depuis le début on le dit, que ce quartier reprenne vie. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des enfants scolarisés dans deux établissements qui sont fermés, que sont le collège de Tuban et l'école Champmoreau juste à côté, qu'on nous a garanti des ouvertures du collège et de l'école à partir du 19 août, enfin 20 août, une reprise pour les élèves, et qu'aujourd'hui, en fait, on s'inquiète d'une contre-décision qui nous imposerait à continuer un transport scolaire qui est inacceptable et puis un changement de vie pour nos enfants qui est très compliqué.
Lundi, un ado s'est fait racketter dans le quartier, s'est fait voler ses baskets par une bande de jeunes localisés au niveau de la poste de Enghea. À Tuban, les habitants font part de leur ras-le-bol et s'interrogent pourquoi le collège de Caméré a-t-il pu rouvrir ses portes et que la même chose ne semble pas possible à Tuban.
L'actualité politique est le cas de Michael Forest, de nouveau évoqué ce matin lors de la séance hebdomadaire du gouvernement. Il est actuellement en Corse où il a participé à un rassemblement des autonomistes et des indépendantistes. Et face à son attitude, certains membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demandent sa démission, nous a dit Christopher Gigès.
On était déjà intervenu pour dire que Michael Forest ne s'exprimait pas à Bakou au titre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et n'engageait pas le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans ses propos. Aujourd'hui, on a un deuxième souci, c'est-à-dire que Michael Forest n'est plus membre du gouvernement. Michael Forest est un globe-trotteur de la CCAT qui passe par Bakou, à Paris, à Genève, à New York, à Caracas et dernièrement à Corté. Ça fait 3 mois qu'il n'est pas en Nouvelle-Calédonie. Il n'a assisté qu'à une seule séance du gouvernement. Néanmoins, il continue de toucher sa paye et donc aujourd'hui, sa place n'est plus au gouvernement et il devrait démissionner. Il a abandonné ses secteurs, il a abandonné le secteur de la culture, de la jeunesse et des sports. Il continue à toucher un salaire. C'est totalement irrespectueux, à la fois pour l'institution qu'il représente, mais également pour tous les Calédoniens qui souffrent aujourd'hui de la situation. Donc, après les aveux qu'il a pu réaliser à Bakou sur sa responsabilité personnelle dans les exactions et donc la justice en tire donnera les conclusions à son retour en Calédonie s'il rentre un jour. Mais parallèlement, il n'assume plus aujourd'hui sa fonction de membre du gouvernement et donc il n'a plus à siéger au sein de l'exécutif.
C'est une position que vous avez défendue. Vous, quelles sont les réactions des autres membres du gouvernement, indépendantistes et non indépendantistes?
Les autres membres non indépendantistes partagent cette position. On l'a défendue ensemble. Pour la question des indépendantistes, je les laisserai s'exprimer, mais on voit qu'il y a un vrai malaise. Il y a un vrai malaise sur la question de Mikael Forest. Je crois que Jean-Pierre Jaïwe a été exprimé au titre du Palika. Ce qu'on voit en interne, mais je laisserai Louis Mapou s'exprimer lui-même sur ce qu'il pense, mais on travaille tous les jours avec Louis Mapou aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions sur le chômage partiel, sur le fonds de solidarité de l'État. On travaille en lien très étroit avec l'État. Et parallèlement, on a un membre du gouvernement qui va à Bakou pour dire les pires choses sur la France. Donc je crois que chacun aujourd'hui est conscient que Mikael Forest est plus un représentant de la CCAT qu'un membre du gouvernement. Et donc il assume cette position et qu'il l'assumera ensuite devant les autorités judiciaires.
Christopher Gigès, membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, interrogé par Elisabeth Noir, qui signe aussi ce matin un billet d'humeur sur les tribulations de Mikael Forest. Billet d'humeur à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Et puis stop aux mensonges de l'UC. C'est la réaction du député Nicolas Metzdorf au lendemain de la publication d'un communiqué de la commission exécutive de l'Union calédonienne. Elle indique qu'elle prend acte du retrait du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral et elle laisse entendre que ce sont les parlementaires indépendantistes qui l'ont convaincu après leur entretien avec le président de la République. Le député de la première circonscription qui participait à cette rencontre avec Emmanuel Macron parle d'informations erronées, Elisabeth Noir.
Nicolas Metzdorf écrit dans un communiqué que, contrairement à ce qui a été affirmé, le président de la République n'a pas retiré cette révision. Il rappelle que la révision constitutionnelle a été votée par les deux chambres parlementaires, qu'elle existe bel et bien et qu'elle peut être consacrée dans la loi une fois que le Congrès de Versailles sera réuni. Le président de la République ne dispose pas de pouvoir lui permettant de supprimer ou faire disparaître des textes législatifs, déclare le député de la première circonscription, qui indique que le président a seulement précisé que l'examen de cette révision constitutionnelle au Congrès de Versailles n'avait pas encore été réalisé. Pour Nicolas Metzdorf, toute autre interprétation de ses propos est infondée et trompeuse. Il ajoute que le président de la République a indiqué aux parlementaires calédoniens que ce texte serait à l'ordre du jour de la réunion de septembre, qu'il souhaite organiser avec l'ensemble des acteurs calédoniens. Il est essentiel pour le débat démocratique que les faits soient correctement présentés, conclut Nicolas Metzdorf, qui appelle l'Union calédonienne à cesser de propager des informations erronées et à respecter la vérité des faits.
11h43, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et notamment la réouverture ce matin du parc zoologique et forestier.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Parlons donc de la réouverture de plusieurs infrastructures de la province sud ce mercredi pour le grand public. C'était notamment le cas du parc zoologique et forestier à Nouméa et il a accueilli de nombreux visiteurs, Mickaël Juneski.
Oui, nombreux à la première heure ce matin pour la réouverture des portes du parc forestier. Le site était resté fermé au public depuis le début des émeutes. Ce sont les familles principalement qui étaient heureuses de retrouver cet espace naturel et ses pensionnaires et surtout pour le plus grand plaisir des plus petits.
C'est trop bien, tous les animaux.
Ah oui, on avait hâte, on attendait ça depuis longtemps. Donc là, au premier jour, on arrive aux premières heures pour redécouvrir le parc avec les enfants.
Ça fait du bien, hein, revenir se promener là-dedans, comme ça fait longtemps. Hein.
Pour faire promener les enfants, comme c'est les 2 semaines de vacances, donc ça fait une sortie en plus.
J'étais déjà venue, mais comme je me rappelle plus, comme ça fait longtemps, je vais la revoir.
Justement, c'est lui qui nous a poussé à venir aujourd'hui.
Tous les animaux, l'octagon.
C'est bien. Les animaux.
Les pans.
Aussi les ânes.
On a vu les pans.
Le pan, il a couru.
On profite de sa réouverture et on respire l'air frais, on voit les animaux, donc c'est plusieurs choses en un.
J'ai pas de mots pour décrire la joie que je ressens. Je suis une fidèle. Tous les jours, je faisais entre 7 et 8 km par jour. Et là, pendant 3 mois, 0 km, quoi. C'est surtout l'endroit, quoi, je veux dire, la forêt, les animaux. Je pense que quand je suis rentrée, j'étais pas trop bien, parce que j'avais appris, j'ai entendu des choses et tout. Ces découvertes, je retrouve mes animaux, Madame l'Autruche, qui me fait toujours sa danse, là, j'adore. Puis voir s'il y a l'ensemble des animaux, quoi.
Le parc forestier qui n'a pas été épargné par les émeutiers, avec des intrusions, des animaux tués. Cette réouverture fait du bien aussi aux équipes qui travaillent sur le site, comme Émeric Marchal, responsable de la technique et des publics au parc forestier.
Ça fait beaucoup d'émotions à tout le monde, à nos abonnés en premier lieu, à nos agents chez qui cette période de fermeture a représenté une espèce de manque quand même. Cette fermeture, oui, a eu un impact sur eux, c'est pas négligeable, et donc du coup la joie est inversement proportionnelle face à cette ouverture. Et aussi les animaux, on n'y pense pas assez, mais on a beaucoup d'animaux qui ont besoin d'avoir du public, notamment tout ce qui est perroquets, etc. Voilà.
Le parc forestier qui restera ouvert durant cette période de vacances scolaires du mercredi au dimanche de 9h à 16h.
Le parc provincial des Grandes Fougères à Farino a lui aussi rouvert ce matin et il propose une nouvelle attraction, un parcours d'acrobranche. Il est également ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 16h pendant les vacances scolaires. L'année scolaire de nombreux étudiants a été perturbée depuis le 13 mai. C'est le cas pour les élèves de l'EGC Business School. La promotion 2026 a débuté son bachelor en février et a dû vite continuer sa formation en distanciel. Ce matin, une rencontre avait lieu entre les 49 élèves et le nouveau parrain de la formation, la Banque de Nouvelle-Calédonie. L'occasion de se retrouver, mais également de rencontrer le partenaire et découvrir son rôle au cours des 3 années d'accompagnement. David Leclerc est le directeur de l'EGC.
Ce parrainage, il prend place chaque année sur le suivi d'une promo. Donc la BNC, en fait, va accompagner les étudiants pendant les 3 années du cursus. Ça permet, un, de créer des liens avec une entreprise, deux, de connaître les métiers de cette entreprise, en l'occurrence pour la BNC, les métiers de la banque, et trois, de pouvoir travailler en étroite relation pendant ces 3 années sur différents projets, que ce soit des projets de la BNC, mais que ce soit aussi des projets de l'EGC, voire de la CCI, que les étudiants participent à des événements organisés par la BNC elle-même.
Du côté des élèves, le parrainage représente une opportunité, une première découverte du milieu professionnel. Ce matin, chacun et chacune devait amener un objet, le ou la représentant, ce qui était l'occasion de se présenter, mais aussi de se faire repérer par tes partenaires.
Bonjour, j'aimerais introduire mon objet avec une phrase de Jean-Paul Sartre qui l'a dit dans lui.
Moi un enjeu puisque ça va être une sorte d'introduction pour nous au monde professionnel puisque nous sommes des jeunes ressortissants du lycée, donc pour nous c'est tout nouveau. On a déjà commencé un peu à entrevoir la vie professionnelle avec nos stages et c'est vrai que là c'est un peu une concrétisation, rencontrer des figures un peu, je dirais, emblématiques dans le monde bancaire.
Ah oui, bien sûr, c'est l'occasion de se vendre avec la prestation que je vais faire tout à l'heure. J'aurai déjà un pied dans ce monde-là. Parce qu'on a plusieurs représentants de la BNC, je pourrais faire bonne impression aujourd'hui.
Se faire parrainer par la BNC, c'est un avantage, parce qu'en fait, c'est une très grande banque, c'est une des plus réputées en Nouvelle-Calédonie. Donc ça nous apporte plus de visibilité, donc plus de facilité dans la recherche de stage, par exemple, ou pour une entreprise en alternance.
Merci de m'avoir invité.
Le choix de parrainer cette promotion de l'EGC n'est un engagement pour la BNC puisqu'il induit un soutien financier dans un contexte de crise économique que connaît le territoire. Pourtant, la banque n'a pas hésité. Pour Régis Buquet, le directeur général de la BNC, il s'agit en effet d'investir sur l'avenir.
On a souhaité réaffirmer notre volonté d'accompagner les étudiants de l'EGC, justement en fait, dans ce contexte un peu compliqué, en parrainant une promotion sur une durée de 3 ans. Bah, évidemment, on y a réfléchi parce que c'est un soutien financier aussi, et donc à ce moment-là, bah, c'est des choix à faire, mais on y a réfléchi, mais très vite, on a pris la décision de maintenir le partenariat, parce que c'est aussi le rôle des banques sur le territoire, d'aider le territoire à se reconstruire sur toutes ses formes. Et encore une fois, le partenariat qu'on a noué avec l'EGC, c'est un partenariat de qualité. Ça forme des étudiants dont on a besoin demain pour construire le territoire. Donc c'est un investissement qui nous paraît pertinent.
Régis Buquet, secrétaire général de la BNC, qui a donc signé ce matin la convention de parrainage de la promotion 2026 de l'EGC Business School avec David Guyenne, le président de la CCI, et Pierre Kolb, le président de l'association Alumni Business Network.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Est-il, selon vous, justifié de fermer le collège de Rivière-Salée qui a été en grande partie détruit par les émeutes? Si vous trouvez que c'est justifié, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 82% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent passionnés par les Jeux Olympiques de Paris alors que l'on est dans la dernière semaine de compétition. Ils sont 18% à ne pas partager cette passion. À Paris, on y parle juste après la pause pour une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous savez que vous devez faire contrôler ou changer les pneus de votre véhicule de marque premium, mais savez-vous que Prestige Motors est aussi un service minute de montage de pneumatiques? Un service première classe, rapide, avec de nombreuses références disponibles et sans rendez-vous dédié à tous les véhicules premium. Vous méritez le meilleur, vos pneus aussi. Prestige Motors, au 6e kilomètre. Téléphone 44 30 00.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Et on va d'abord parler de l'actualité à métropole. On peut parler d'un effet waouh. À Paris, on prévoyait une situation très compliquée pour les Parisiens pendant la période des Jeux, mais il n'en est apparemment rien. C'est même une sorte de bol d'air frais qui souffle sur la capitale, a constaté Johan Madec pour Europe 1.
Short, lunettes de soleil et grand sourire, Marc a l'air d'être en vacances. Pourtant, le quadragénaire rentre du travail, ravi de l'ambiance dans Paris ces derniers jours.
Les gens sont plus heureux, on se sent beaucoup plus de sécurité parce qu'il y a beaucoup de policiers dans la rue. Non, franchement, c'est beaucoup mieux. On nous avait annoncé l'enfer en tant que Parisiens. Finalement, c'est un petit paradis.
Un petit paradis dans lequel il raconte se déplacer rapidement en transport en commun.
Toutes les stations qui sont fermées ne me concernent pas. Donc je gagne beaucoup de temps pour aller sur mon lieu de travail. Je suis vraiment le Parisien heureux, moi.
Une bonne ambiance, donc, qui étonne Gianni, étudiant installé à Paris depuis 2 ans.
J'ai jamais vu Paris aussi cool, quoi. C'est plus festif, c'est plus... les gens, ils ont moins de problèmes dans la tête, ils sont moins aigris, en fait. Moi, je trouve ça beaucoup mieux. Les enfants, ils sortent avec leurs parents devant la Tour Eiffel. Il y a plein d'animations, d'événements, etc.
Autre point notable, la propreté des rues, que Nathalie apprécie beaucoup.
Ils ont quand même fait un bon gros ménage. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus nettoyé. Ils ont traité un peu les rats. Donc on profite un peu de ça, nous-mêmes.
Le revers de la médaille, pour la mère de famille de retour des courses, c'est l'augmentation des prix. Exemple avec le ticket de métro, qu'elle paye 4 euros pendant les Jeux, au lieu de 2,15 euros habituellement.
Beaucoup plus grave, le Comité national olympique a commémoré le 52e anniversaire des JO de Munich, au cours desquels 11 athlètes israéliens avaient été tués par un commando palestinien. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'ambassade d'Israël, en présence notamment de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi de la veuve de Yosef Romano, cet haltérophile israélien tué par les Palestiniens il y a 52 ans.
Ce désastre attachait le drapeau des Jeux olympiques du sang des athlètes israéliens, qui croyaient au sport, à la fraternité et à l'amitié entre les nations. Nous avons tous le devoir de veiller à ce que le drapeau olympique ne soit jamais terni.
11 bougies ont été allumées à la fin de la cérémonie en souvenir des 11 athlètes victimes des terroristes palestiniens. L'actualité à l'étranger, et Kamala Harris a dévoilé le nom de son colistier appelé à devenir vice-président en cas d'élection de la candidate démocrate. Tim Walz est le gouverneur du Minnesota. Il est peu connu du grand public, mais répond parfaitement aux attentes de certains démocrates. Anne Toulouse pour Europe 1.
Selon un sondage express, 71% des personnes interrogées ne connaissaient pas Tim Walz, bien qu'il ait passé 12 années à la Chambre des représentants. Son État, le Minnesota, est grand en surface, mais compte à peine plus de 5 millions d'habitants. Il est la quintessence de cette Amérique qui se dit ignorée et dont la classe moyenne est l'enjeu électoral des deux partis. Le calcul des démocrates est que Tim Walz produira un effet d'appel sur les États voisins comme le Wisconsin, le Michigan et même la Pennsylvanie, dont le gouverneur, donné grand favori, a été snobé. Bien que Tim Walz ait à peu près le même âge que Kamala Harris, 60 ans, il paraît beaucoup plus vieux. Il respire la bonhomie, mais son verbe est mordant et il a qualifié Donald Trump d'un seul mot, weird, bizarre, qui est devenu le leitmotiv de la campagne Harris. Ancien professeur du secondaire, Tim Walz a derrière lui les syndicats, dont celui très puissant de son ancienne profession, ainsi que l'aile gauche du parti. Sa sélection donne déjà du grain à moudre aux républicains, réjouis d'un ticket dont l'image s'est éloignée du centre.
Il est 11h55, la dernière pause de ce journal, avant, une belle page consacrée aux Jeux Olympiques.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
spécial info-jeu SMS sur RRB. Le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie. Les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et bien sûr à la une, les Jeux Olympiques.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et pas de nouvelles médailles aujourd'hui pour le camp français, mais en revanche, Mickaël Duneski, de très belles performances, notamment du côté des sports collectifs.
Et la sensation de jour nous vient du basket avec les Bleus qui ont résisté au Canada pour se hisser en demi-finale du tournoi. L'équipe de France, messieurs, l'a emporté sur l'une des sélections favorites de la compétition, 82-73. Une victoire d'équipe, souligne Evan Fournier, l'un des cadres de la sélection française.
Ça, c'est le groupe que je connais, ça. Depuis 2019, on a créé un groupe unique, qui a fait des grosses perfs. C'est un groupe qui a beaucoup de cœur et ce soir je l'ai retrouvé. On est restés ensemble. Malgré tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se passer, en coulisses ou pas, nous on est restés solidaires avec le staff.
Les Bleus du basket qui peuvent donc rêver d'un podium, ils affronteront l'Allemagne dans le dernier carré dès vendredi matin. Sport collectif toujours, les Bleus du handball féminin cette fois, qui continuent également l'aventure. Après être sortis vainqueurs de l'Allemagne en quart de finale, les Françaises se sont imposées sur le score de 26-23. La gardienne de l'équipe de France, Laura Gloser.
On a galéré en attaque, mais on n'a pas amené cette galère-là avec nous en défense. Franchement, on était stable, on était solide, moi, je me sentais carrément en sécurité derrière et je suis contente parce qu'elles m'ont amené cette sécurité-là qu'elles n'avaient peut-être pas forcément en attaque et on a su switcher après. Je pense qu'il y a la pression, c'est un quart de finale, donc si on perd, il n'y a plus de match derrière. Là, on sait qu'il y aura 2 matchs coûte que coûte, donc je pense que c'est plus facile de lâcher les chevaux quand c'est comme ça que quand c'est un match coup près. Bien sûr, la demi-finale, on va vouloir la gagner comme tous les matchs qu'on a envie de gagner, mais peut-être que oui, il y avait un petit frein au début par rapport à ça.
Les Françaises qui feront face aux Suédoises en demi-finale. La Suède qui a triomphé de la Hongrie 36-32 après prolongation. On passe à l'actualité de l'athlétisme et notamment Louise Maraval qui a réussi à se classer deuxième de sa demi-finale. Qualification donc pour une finale, tout comme pour Agathe Guillemot qui s'est qualifiée pour les demi-finales du 1500 mètres. Et puis Alice Finot a quant à elle terminé quatrième de la finale du 3000 mètres steeple avec un nouveau record d'Europe à la clé. Pas de médaille, mais de la fierté tout de même pour Alice Finot.
J'ai réussi à m'exprimer. On n'est jamais sûr de pouvoir le faire. Beaucoup d'appréhension avant cette course. C'est le moment où on veut être au rendez-vous. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais voilà, cette quatrième place, c'est celle qui me correspond ce soir.
On change de discipline et une autre qualification pour une finale, cette fois pour le cadre technique de la Ligue calédonienne d'escalade. Bassam Awem, notre représentant qui s'en est sorti in extremis, il a battu en duel le grimpeur ukrainien pour seulement un petit centième de différence. À 39 ans, celui qui avait jeté l'éponge pour blessure à Tokyo a signé l'huitième temps des demi-finales. La finale donc de l'escalade vitesse, ce sera à suivre dans la nuit de jeudi à vendredi. La suite ce soir et demain matin, il y aura notamment un duel en volley pour Erwin Engapet et les Français. Ils retrouveront l'Italie en demi-finale. À suivre également les épreuves de canoë-kayak sprint, le taekwondo, bien sûr les épreuves d'athlétisme, du tennis de table avec les frères Lebrun qui défieront les Brésiliens en quart de finale du tournoi par équipe. Il y aura également de la boxe avec Sofiane Oumia en finale des moins de 63 kilos. Sans oublier le quart de finale messieurs du handball entre la France et l'Allemagne. Ça se sera à suivre à partir de 22h30 ce soir. Pour le moment, la France est donc quatrième du classement des médailles avec 13 titres sur 4 48 podiums, soit une médaille d'or seulement de moins que l'Australie, troisième. Les États-Unis sont en tête désormais avec 24 médailles d'or sur 86 podiums. La Chine est deuxième avec 22 médailles d'or sur 58 médailles au total.
Et parlons maintenant de l'une des stars françaises de ces Jeux, le judoka Teddy Riner. Il a toujours soif de médailles et de titres, nous a dit son manager calédonien Laurent Caléja, qui vient de vivre avec son champion une nouvelle aventure olympique, couronnée par deux médailles d'or, une en individuel et une autre par équipe mixte. Laurent Caléja fait partie de la petite équipe de 6 personnes qui suit Teddy Riner et nous lui avons demandé comment se sont passés les jours qui ont précédé la compétition.
15 jours, 3 semaines avant, il est prêt et il n'y a plus grand chose à faire, donc il y a juste à entretenir la belle machine qu'il est et puis à le mettre dans des conditions psychologiques qui sont dignes des Jeux Olympiques. Donc nous, notre créneau là-dessus, c'est surtout rien changer à ce qui se fait d'habitude, garder de la bonne humeur, parce que de toute façon, le matin des Jeux Olympiques, comme tout le monde le sait, c'est une journée complètement différente de tous les autres jours, puisque tu le prépares pendant 4 ans. Donc surtout pas mettre de pression les jours avant et rester soi-même et garder la bonne humeur avec laquelle on s'est entraîné pendant des années, quoi. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc petite musculation, petit rappel de judo, petit football pour s'amuser un peu et décompresser, petit déjeuner ensemble, des jeux de société parce qu'il adore ça, et puis passer du temps et tuer le temps pour que le matin quand on se lève, on soit prêt à la guerre, quoi.
Et la guerre, Teddy Riner l'a remportée en s'imposant d'abord en individuel. Il s'est ensuite tout de suite remobilisé pour l'épreuve par équipe.
C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités et quoi qu'il serait passé sur le titre individuel, il aurait assuré quand même sa position et son rôle de patron et de leader en équipe. Déjà, il apporte de la sérénité sur son combat à lui. Et puis surtout, c'est le grand frère de cette équipe. C'est quelqu'un qui a fait 5 Jeux Olympiques, qui est multimédaillé, champion du monde. Donc forcément, il apporte de la sérénité et puis il apporte de la folie aussi parce que c'est encore un joueur. Donc en fait, il adore ça. Et surtout, ce qui est important, c'est quand on voit à quel niveau il s'implique dans les équipes et à quel niveau d'engagement il fait ses combats, derrière, tu n'as plus le choix que de combattre à 200% de ton potentiel. Parce que lui, en étant 11 fois champion du monde et triple champion olympique la veille, il est capable encore de se surpasser, parce que ce n'est pas facile, hein, vous avez vu les matchs, hein, c'est vraiment, vraiment difficile physiquement. Donc quand on voit un mec multimédaillé comme ça qui se donne pour une équipe, forcément derrière les mômes, ils sont galvanisés. Donc c'est ça son vrai rôle.
Et Teddy Riner totalise désormais 3 titres olympiques en individuel, 2 en équipe mixte. Il est aussi 11 fois champion du monde, c'est-à-dire s'il domine sa discipline depuis de très longues années. Nous avons demandé à son manager calédonien quelle était la suite pour Teddy Riner.
Déjà là, il va prendre des vacances et puis il a annoncé qu'il partait aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Donc ça, c'est déjà acté. Moi, je suis déjà en train d'écrire le bilan et puis écrire la nouvelle planification et programmation des 4 prochaines années qui vont se découper en 2 ans et 2 ans parce que 4 ans, c'est très, très long, surtout qu'il va arriver aux Jeux Olympiques à 39 ans. Donc il va falloir ménager sa monture, ça c'est important, et son psychologique, c'est aussi important. Donc moi je suis en train d'écrire tout ça, et puis après lui mettra les noms qu'il a envie de mettre en face de chaque poste à responsabilité que j'écrirai, et sa planification que j'écrirai, et il choisira son équipe encore de nouveau pour 4 ans.
Laurent Caléja qui sera donc de retour sur le territoire à la fin de la semaine. Et puis il faut déjà penser à la fin des Jeux Olympiques. 10 jours après la cérémonie d'ouverture, bien des mystères planent encore sur la cérémonie de clôture qui aura lieu cette fois-ci au Stade de France. C'est la même équipe dirigée par Thomas Joly qui sera à la manœuvre. Le mystère demeure donc sur le déroulement, malgré quelques fuites. Louis Salé pour Europe 1.
La bande-annonce donne le ton avec encore de la danse, chère à Thomas Joly, et une musique futuriste sur le thème du voyage dans le temps. Cette cérémonie intitulée Record célébrera les performances des athlètes sur des sons électropop, donc interprétés d'après le Parisien par deux groupes emblématiques français, R et Phoenix, célèbre pour son tube Listomania. So autre surprise hollywoodienne, cette fois-ci pour passer le relais à Los Angeles, la prochaine ville hôte des Jeux en 2028, l'acteur Tom Cruise devrait réaliser quelques cascades avant d'enfourcher sa célèbre moto dans la capitale, puis de s'envoler vers les États-Unis. C'est une rumeur, mais les médias américains en parlent et des vidéos de lui ont été tournées en avril à Paris, filant à toute allure sur le pont de Bir Hakeim. Mais attention, voir ce spectacle en live n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les prix oscillent entre 250 euros pour la catégorie D et 1600 euros en catégorie A. Il y aura bien sûr une retransmission en direct à la télévision.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on va terminer ce journal évidemment par notre question pour tester vos connaissances sur ces Jeux Olympiques. C'est de mémoire de jeu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
Alors voici la question que nous vous posons aujourd'hui. Parmi ces perchistes français, lequel n'a jamais été champion olympique ? Si c'est Jean Galfionne, vous tapez JO1. Si c'est Thierry Vigneron, vous tapez JO2. Si c'est Pierre Quinon, vous tapez JO3. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il faut envoyer la réponse avant 17h, puisque c'est l'heure du tirage au sort parmi les bonnes réponses qui désignera le nom du vainqueur. Réponse ce soir dans notre journal à 17h45.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.
Allez, on termine cette page sport avec un mot de football et la sélection calédonienne des moins de 16 ans qui disputera demain la demi-finale du tournoi OFC. La compétition se déroule en Polynésie française. Nos représentants affronteront la Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi à partir de midi, heure de Nouméa.